France Musique. C'est l'été sur France Musique. Les Uchronies musicales de Laurent Villarem.
Et si Clara Schumann avait été un homme ? Leipzig. Un triomphe. Cela faisait des années qu'on n'avait pas entendu un tel déluge d'applaudissements dans la ville saxonne. La presse est unanime. Ce concerto pour piano est un chef-d'œuvre, un miracle d'équilibre, une perle de lyrisme. Et dire que ce jeune pianiste-compositeur n'a que 16 ans. Assurément, c'est le nouveau Mozart. Et pourtant, on ne sait quasi rien de l'auteur. Un certain Joseph Wieck. Comme Mozart encore, son père veille à son éducation musicale. Son talent est hors norme. Ce jeune musicien ira loin, très loin. Mais voilà, Joseph Wieck revient sur scène et s'apprête à redonner le final de son concerto. Brigitte Engerer dans le concerto pour piano de Clara Schumann, l'orchestre Provence-Alpes-Côte d'Azur est dirigé par Philippe Bender. Pour m'accompagner dans cette uchronie, Claire Baudin. Bonjour Claire Baudin.
Bonjour Laurent Villarem.
Vous êtes directrice de Présence Compositrice, centre de ressources et de promotion qui met notamment à disposition la base de données demandée à Clara. Et vous venez également de faire paraître un roman, Le fil d'Adrienne, aux éditions Vérone. Nous avons imaginé que le concerto pour piano de Clara Wieck était écrit par Joseph Wieck. Le second prénom, Claire, vous me l'avez dit, de Clara, c'était Joséphine.
Oui, tout à fait.
Donc ce concerto était donc écrit par un homme et les réactions ont été très positives. Alors qu'en réalité, quelles furent les critiques du concerto pour piano de Clara Schumann lors de sa création en 1835 et sa reprise aussi en 1837 ?
Alors en 1837, c'est en fait la publication du concerto, et là clairement il y a un problème, puisqu'en fait le critique de l'époque, Carl Ferdinand Becker, écrit quelque chose qui est une véritable insulte au talent de Clara et à celui des femmes en général, puisqu'il écrit: il ne saurait être question à proprement parler d'une recension puisque nous avons affaire avec l'œuvre d'une femme. Donc ça, c'est 1837. En 1835, les choses sont un peu plus positives, même si le concerto n'a peut-être pas l'accueil complètement enthousiaste et espéré. C'est peut-être plus l'interprète qui est plébiscité par le public, mais Robert Schumann fait quand même une critique très positive et très poétique dans sa revue. Et puis on a une autre revue musicale aussi qui souligne le style grandiose, la variété des mélodies,
donc les plus chantantes,
etc. Donc ça se passe pas si mal.
Néanmoins, voilà. Vous pouvez rappeler la phrase que vous avez dite sur 1837, ce n'est pas une recension.
Voilà, puisque nous avons affaire avec l'œuvre d'une femme, donc en fait c'est vraiment quantité négligeable, c'est terrible.
Alors Claire Baudin, on va faire un petit jeu. Je vais vous faire écouter deux courts extraits. Vous allez me dire si c'est composé par un homme ou par une femme. Si vous reconnaissez le genre de la musique, si la musique est un genre. Premier extrait. Claire Baudin, homme ou femme ?
Ah, joker là, j'en ai aucune idée, c'est impossible.
Alors c'est Emily Mayer. Pourtant c'est une musique guerrière, ça pourrait être écrit par un homme.
Oui, voilà, ça fait partie de tous les présupposés d'une nature dite féminine ou masculine. Qui résiste pas en fait à deux ou trois écoutes, parce qu'on s'aperçoit très très vite, et j'ai souvent fait l'expérience, que ce qui est tendre, charmant et délicat n'est pas forcément féminin, et ce qui est passionné, virtuose et puissant n'est pas forcément masculin.
On va écouter un deuxième extrait, cette fois je vous dis qui c'est la compositrice Rebecca Clark. La Britannique Rebecca Clark, lors d'un concert à Londres, elle a fait passer certaines de ses œuvres sous un pseudonyme masculin. Et la critique de l'époque, donc il y avait des œuvres d'elle-même et d'un certain Anthony Trent, alors que c'était elle-même qui avait écrit. Et la critique de l'époque a dédaigné Rebecca Clark et a encensé la musique d'Anthony Trent. Qu'est-ce que ça vous évoque, Claire Baudin ?
Oh ben, ça m'évoque beaucoup de choses, parce que, pour rebondir aussi sur justement ce qu'on vient de dire à propos du premier extrait, une femme qui est femme et qui a un cerveau qui est capable de créer, souvent a été considérée comme une espèce de créature monstrueuse, comme si c'était pas capable d'avoir un corps de femme et en fait une puissance créatrice. Et donc énormément de femmes, alors soit se sont cachées derrière un pseudonyme, soit ont eu aussi des phrases telles que Louise Farinck avait une puissance de tête toute masculine, la musique d'Effelsmeyer ou d'Augusta Holmès était absolument virile, une compositrice comme Pauline Thys, on disait qu'elle avait le feu sacré, l'élan, l'énergie, et pour dire mot qu'elle écrivait comme un homme, etc. Et pour revenir peut-être à Clara Schumann, justement, même son amie et collègue virtuose, le violoniste et compositeur Joseph Joachim, lui écrit: que vous soyez une femme semble n'avoir rien à faire là-dedans. De toute façon, en ce qui concerne l'art, vous êtes suffisamment homme. Donc on tourne toujours autour de la même histoire.
Claire Baudin, avant qu'on aborde la trajectoire de Clara Schumann, je voulais vous demander, votre base de données sur les compositrices s'appelle « Demandez à Clara ». Mais si Clara Schumann avait été un homme, comment le site serait-il appelé ?
Oui, alors en fait, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai commencé à travailler sur les compositrices il y a 15 ans. Et effectivement, lors de chaque conférence et lors de tous les ateliers que j'ai pu animer, quand je posais la question « est-ce que vous pouvez citer quelques noms de compositrices ?», la réponse était invariablement, quel que soit le public, y compris des professionnels, Clara Schumann. Donc c'est vrai qu'appeler la base de données, demander à Clara, ça s'est imposé comme une évidence. Il y avait une sorte de top 5 des compositrices. La deuxième, c'était Fanny Mendelssohn, parfois Hildegard von Bingen, parfois Louise Farinck. Et en matière de musique contemporaine, ça va vous intéresser, Laurent, c'était toujours Kaya Saariaho qui arrivait en tête. Donc voilà, donc est-ce qu'on aurait pu donner un autre prénom de compositrice ? J'en sais rien. Moi, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à votre uchronie en imaginant que les compositeurs auraient été invisibilisés à leur tour. Et dans ces cas-là, on aurait peut-être appelé notre base de données, demandé à Robert. Voilà, je n'ai pas d'autre idée pour le moment.
Alors, Claire Baudin, concernant la vie de Clara Schumann, on peut dire qu'elle a été durant toute sa vie sous l'emprise d'hommes, et d'abord, en premier lieu, son père.
Oui. Alors en fait, ce mot emprise, il me fait beaucoup réfléchir parce qu'il est quand même très très fort. Il implique, on va dire,
C'est compliqué, oui, entre guillemets.
Oui, c'est compliqué. Il y a des subtilités, on va dire, psychanalytiques qui imposent une façon d'être de la part de celui qui met sous emprise et une façon d'être de celle ou celui qui est sous emprise. Je ne sais pas si c'est un mot qui est complètement juste pour toute la vie de Clara Schumann parce que elle a quand même su faire face à des situations, réagir à ces situations et parfois s'en extraire. Alors. Bien sûr, petite fille puis adolescente, Clara Wieck a été contrainte. Elle pouvait pas s'opposer. Elle a subi une grande violence de la part de son père, notamment au moment de la séparation avec sa mère. Elle avait que 5 ans et elle ne l'a revue que très très tardivement. Et il est évident que son père était parfaitement autoritaire et totalement ingérant. Donc voilà. En même temps, il a su reconnaître en elle les prémices du génie, ce que n'ont pas su faire tous les pères.
Et il a délaissé les autres enfants.
Oui, tout à fait, et notamment les garçons. Et il lui a ouvert une voie artistique pour laquelle elle semblait vraiment vraiment faite. Il est aussi quand même remarquable qu'elle ait pu tenir tête à son père et qu'au moment d'épouser son amoureux Robert Schumann en 1839, elle ait eu la force en fait de se libérer de cette emprise et d'intenter en fait un procès à son père.
Un extrait de la romance en la mineure de Clara Schumann par Marie-Joseph Jude. Claire Baudin, après la prison créée par son père, Clara Schumann est tombée ensuite sous l'emprise d'un autre homme, Robert Schumann, même si bien sûr ici encore c'est à nuancer.
Oui, alors je crois qu'effectivement il faut nuancer. Et je pense aussi que dans le synopsis de votre uchronie, il aurait fallu permettre une bonne dizaine d'analyses en psychothérapie à Clara Schumann pour avoir le fin mot de l'histoire. Mais parce qu'en fait, elle est très amoureuse. Et dans son journal, elle écrit des phrases sans aucune équivoque telles que « Il est tellement génial qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer » ou alors « Je ne renoncerai jamais à lui, ni lui à moi, jamais je ne pourrai aimer un autre homme ». Donc évidemment, derrière ces mots, il y a un besoin de fusion qui est sans doute un peu immature, mais il y a aussi une vraie et belle rencontre à laquelle Clara s'ouvre totalement. Ce qui est à souligner, en revanche, c'est toute l'ambiguïté de Robert Schumann, qui d'un côté va valoriser ses qualités d'interprète et de créatrice, et de l'autre va quand même lui demander de s'occuper d'une vie domestique et va quand même lui faire 8 enfants, ce qui n'est pas rien évidemment dans un quotidien de créatrice.
Et comment aurait évolué Robert Schumann s'il n'avait pas connu Clara ?
Alors c'est quand même très difficile à dire. J'ai l'impression que la psychologie de Robert Schumann voulait une femme de la trempe de Clara Schumann à côté de lui et probablement aussi de l'intelligence et de la sensibilité de Clara Schumann. Alors peut-être en aurait-il cherché une autre. Est-ce qu'il l'aurait trouvée? Ça évidemment c'est une autre histoire. Avec Clara, il est vraiment tombé sur une femme exceptionnelle et je pense que lui aussi aurait pu écrire « Elle est tellement géniale qu'on ne peut s'empêcher de l'aimer ».
Et si Clara Schumann avait pu se consacrer à la composition ? Vienne, 1885. Clara Wieck n'a pas eu d'enfant, car elle savait que s'occuper d'autres enfants l'aurait empêché d'écrire de la musique à plein temps. C'est pour cela aussi qu'elle a quitté Schumann. La maladie mentale de Robert empiétait sur le temps de ses compositions. Aujourd'hui, à près de 70 ans, Clara est l'autrice de 6 concertos pour piano, d'innombrables pièces de musique de chambre. Elle est la grande rivale de Wagner, dont elle déteste la musique. Aujourd'hui, on va créer sa toute nouvelle symphonie. C'est l'aboutissement de toute une vie de compositrice. Un extrait de la symphonie numéro 4 de Brahms par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, dirigé par Carlos Kleiber. Claire Baudin, comment expliquez-vous que Clara se soit consacrée à son foyer et qu'elle ait progressivement abandonné la composition ?
Alors en fait, on peut dire que Clara était une sorte de superwoman. Et on dirait aujourd'hui qu'elle avait une charge mentale qui était absolument colossale entre l'éducation de ses 8 enfants, sa carrière de concertiste, son activité de compositrice, s'occuper de son mari et des œuvres de son mari qu'elle aidait aussi. Et elle était vraiment très très loin de posséder le nécessaire espace à soi, autant psychique que physique, qu'évoque Virginia Woolf en parlant des femmes. Et ça, c'est forcément usant, ça le serait pour n'importe qui, homme ou femme, confronté à la même situation et quelle que soit l'époque. Et puis, quand on écoute les mots de Robert Schumann, il est toujours très ambigu. Par exemple, il écrit « Clara a écrit une suite de petits morceaux d'une délicatesse et d'une richesse d'invention inédite. » Donc là, on est dans la colonne créatrice, reconnue. Mais il poursuit juste après. « Mais s'occuper des enfants et d'un mari perdu dans ses rêveries, cela ne se concilie guère avec la composition. Elle reconnaît elle-même que son métier principal est celui de mère. » Et là, on est évidemment dans la colonne vie domestique. Et en plus, avec une bonne conscience, ça peut être frais.
Vous pouvez parler des trois cas, qui est la trilogie en Allemagne.
C'était... Oui, c'est ça. Kinder, Küche, Kirche. Donc voilà, les enfants, l'église et la cuisine. Et donc Clara a quand même été aussi assez cantonnée dans ce rôle-là. Et j'aime bien faire la comparaison avec d'autres compositrices. Par exemple, Cécile Chaminade, qui écrit, elle, être entre une mère et être une artiste, je préfère être une artiste. Donc il y a des compositrices qui ont su affirmer comme ça clairement leur choix. Et Cécile Chaminade n'a pas eu d'enfant d'ailleurs.
Comment expliquez-vous que même après la mort de Robert, Clara ne soit parvenue à la composition ?
Alors ça aussi, c'est quand même compliqué à expliquer. Je pense que le sentiment d'illégitimité et les doutes qui en fait ont hanté Clara pendant toute sa vie ont usé en fait en elle le ressort de la création. De la même manière, ça a été le cas avec Alma Schindler, une fois qu'elle est devenue Alma Mahler. C'est en fait, moi j'analyse ça comme une sorte de processus de deuil qui s'est fait petit à petit, qui a pris du temps. Mais une fois que le processus a été enclenché, une fois qu'il a été mené à son bout, il n'y a plus de retour possible en arrière. Et là, je crois qu'on peut quand même rendre hommage à la clairvoyance du père de Clara, qui peut-être l'a mis sous emprise, mais qui a dit à un moment donné, si elle avait le temps maintenant, elle composerait beaucoup et bien. Et ça fait écho justement à Clara Schumann, qui elle-même, en 1848, disait « Je joue peu maintenant car je n'ai pas le temps. De même, pour composer, je n'ai jamais le temps. » Donc en fait, il y a une espèce de lutte permanente entre son besoin absolu de créer et puis ses doutes et son illégitimité, puisqu'elle dit « J'ai cru que j'avais un talent créateur, mais j'ai abandonné cette idée. » C'est une forme d'automutilation en fait, je crois.
C'est l'été sur France Musique, les uchronies musicales de Laurent Villarem.
Claire Baudin, l'un des modèles d'indépendance, de poursuite de carrière loin d'une, donc, d'une supposée légitimation par le regard des hommes. Selon vous, c'est la Britannique Ethel Smyth.
Oui, alors je crois que j'ai une affection particulière pour Ethel Smyth, qui était vraiment une battante. Elle avait une sacrée personnalité et elle s'est opposée à sa famille très tôt. Elle avait 12 ans. Et alors là, il n'était pas du tout pour elle question de faire une carrière ni d'artiste et encore moins de créatrice. Puis elle est là, l'une des rares compositrices que je connaisse à avoir une conscience politique et féministe, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être emprisonnée en 1912 et ce qui a valu aussi une scène mémorable qu'on peut tous et toutes s'imaginer, puisque de la fenêtre de sa prison, elle a dirigé avec sa brosse à dents sa fameuse marche des femmes, donc ça devait être assez cocasse. Elle assumait aussi ses coups de foudre pour des femmes, dont Virginia Woolf, l'écrivaine dont elle est tombée amoureuse à 71 ans. Elle a aussi rencontré Clara Schumann et Brahms, et d'ailleurs elle a cette phrase amusante que j'ai envie de vous dire, je suis de jour en jour plus convaincue que je ne me marierai pas, les femmes qui composent ne peuvent s'occuper des maris et des enfants, même si j'étais amoureuse de Brahms et qu'il répondit à mon amour, je dirais non. Donc ça prouve à la fois l'admiration pour Brahms et en même temps le positionnement d'Ethel Smyth. Je trouve ça vraiment très chouette comme phrase.
On écoute un extrait du concerto pour violon et cor d'Ethel Smyth, Marie-Louise Neunecker au cor, Sachko Gavrilov au violon, l'orchestre de la radio de Hanovre est dirigé par Uri Mayer. Un extrait du concerto pour violon et cor d'Ethel Smyth. Claire Baudin, par rapport au titre de notre émission, on peut donc dire, si Clara Schumann avait été un homme, elle aurait composé davantage, et selon vous, elle aurait écrit quoi ?
Alors je vais vous répondre, mais oui, elle aurait sans doute composé davantage, mais j'ai quand même envie de vous dire qu'on aurait perdu une compositrice et que ça aurait été quand même très dommage. Ce qui aurait été juste bien, c'est qu'elle reste femme et qu'elle ait plus de temps en tant que femme. Mais là, effectivement, on dépasse l'Uchronie, on tombe dans l'utopie, puisque c'est compliqué encore aujourd'hui dans beaucoup d'endroits. Mais bon, je vais répondre quand même. Je pense qu'elle aurait évidemment fait des incursions dans le domaine symphonique, à l'instar, par exemple, de Fanny Mendelssohn ou de Emily Mayer, que vous avez cité, qu'on a entendu tout à l'heure et qui est une exacte contemporaine de Clara Schumann, qu'à ma connaissance, elle ne connaissait pas d'ailleurs. Probablement aussi du côté des grandes formes vocales, par exemple des oratorios. Elle aurait très certainement abordé l'incontournable quatuor à cordes. Et puis, je pense qu'elle aurait encore beaucoup plus écrit pour piano et pour piano et orchestre, à l'instar de Chopin. Elle était une telle pianiste qu'elle ne pouvait pas s'en priver.
Et si Clara Wieck avait une énorme influence dans la musique allemande du 19e siècle, est-ce que, selon vous, cela aurait changé quelque chose pour la place des compositrices à notre époque ?
Oui, sans aucun doute, mais pour avoir une énorme influence, il faut quand même réunir beaucoup de facteurs qui, pour certains, n'ont rien à voir en fait avec le talent ou le génie. Alors Clara Schumann, elle avait le talent, elle avait ce qu'on peut appeler des graines de génie, et ça, on pourrait appeler ça le fond. Elle était éduquée, elle a rencontré, elle pouvait recevoir les conseils de multiples artistes et compositeurs qu'elle fréquentait. Donc ça, on pourrait appeler ça la forme. En revanche, il lui a manqué ce qui pouvait faire aboutir son projet, c'est-à-dire le contexte, une époque qui soit évidemment plus ouverte et plus tolérante. Et ça, une fois sortie du rêve de l'Uchronie, on n'y peut rien, si ce n'est de continuer à se battre pour que tout ce qui ressemble de près ou de loin à une discrimination soit éradiqué définitivement et partout.
Claire Baudin, vous m'avez dit qu'une des œuvres de Clara que vous préfériez, c'est son trio.
Oui, absolument.
Et notamment son mouvement lent.
Oui, tout à fait. J'aime beaucoup tout le trio, mais c'est une œuvre que j'aime beaucoup et qui me touche. D'autant plus qu'une fois encore, Clara Schumann se dévalorisait en le disant qu'elle le trouvait insipide, efféminé et sentimental. Et je peux vous assurer, pour l'avoir programmé dans le cadre de mon festival avec les fougueuses et magnifiques interprètes du trio Sora, que ça n'a rien d'efféminé, de sentimental et d'insipide. C'est vraiment une œuvre qui mérite tout à fait d'être programmée et découverte par celles et ceux qui ne la connaissent pas.
Le mouvement lent du trio de Clara Schumann par le Beaux-Arts Trio. Claire Baudin, je rappelle le site présencecompositrice.com qui permet d'accéder à la base de données Demandez à Clara, qui est une base de données exclusivement centrée sur les compositrices, mais également la sortie de votre livre Le fil d'Adrienne aux éditions Vérone. Ça parle de musique et de compositrice ?
Oui, absolument. Ça parle beaucoup de musique, ça parle de compositrice.
C'est un roman ?
Oui, c'est tout à fait un roman qui imagine une filiation entre une jeune compositrice d'aujourd'hui, on va dire, et son arrière-grand-mère. Voilà, donc c'est une espèce de digestion, je dirais, de tout ce que j'ai pu explorer toutes ces années consacrées à la recherche sur les compositrices. Donc c'est une grande première pour moi, quand même, d'écrire ça.
Donc ça s'appelle Le fil d'Adrienne aux éditions Vérone. Merci beaucoup, Claire Baudin.
Merci à vous.
La semaine prochaine, nous nous demanderons et si Lili Boulanger n'était pas morte à 24 ans. Les Uchronies musicales, collaboration Pauline Boisaubert, prise de son et mixage Olivier Dupré, une émission réalisée par Céline Parfenoff. Et maintenant, vous retrouvez Florent Royer pour Un été avec Louis Armstrong.
À réécouter sur francemusique.fr.